Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de l'émission Écho de ma commune et de mon canton. Nous allons à Chartres Expo aujourd'hui. Près de 5000 lycéens et collégiens et 130 exposants y ont participé au 58e forum de l'orientation les vendredis 27 et samedi 28 janvier dernier. Ce fameux forum présente à travers 19 pôles la totalité des établissements publics et privés d'Eure-et-Loir, IUT, Fac de Sciences, Polytech, plus quelques établissements venus des départements voisins. Objectif, informer et orienter les élèves vers des filières d'avenir. Le forum est donc organisé chaque année par le Rotary Club de Chartres et le CIO de Dreux, comme nous l'explique son directeur Philippe Rabine.
Alors, en ce qui concerne le Rotary, il s'occupe de tout ce qui est budgétaire, et c'est pas rien, plus d'autres éléments comme par exemple la présence de professionnels sur les professions de santé, du droit, de la gestion, mais également de l'accueil sur le parking, enfin d'un certain nombre de petites tâches qui, si elles n'étaient pas assurées, poseraient problème. Et en ce qui concerne l'éducation nationale, elle s'occupe de deux choses. Le secrétariat de l'inspectrice d'information de l'orientation s'occupe des inscriptions des collèges et donc de la réservation des bus, puisque le transport des élèves est pris en charge par le forum. Et le CIO de Dreux s'occupe de tout ce qui est inscription des exposants et conception du plan. Plus d'autres petites tâches diverses et variées. Mais voilà, on est vraiment en complémentarité et puis en lien quasiment quotidien. On échange, on valide mutuellement les positions que prennent l'un ou l'autre de façon à ce que tout se passe sans aucune anicroche.
Philippe Rabine, directeur du CIO de Dreux, tout s'est fort bien passé les 27 et 28 janvier dernier à Chartres Expo à l'occasion de ce forum de l'orientation. Nous nous y sommes promenés micro en main et je vous propose de découvrir trois filières. À l'occasion de cette émission d'Écho de ma commune et de mon canton, c'est parti.
Eh bien, nous allons commencer ce reportage au forum de l'orientation en faisant escale au stand du conseil départemental, j'allais dire conseil général, non, conseil départemental, à mes côtés Gladys Guenet, qui va nous parler du service civique pour les 16-25 ans.
Exactement. Donc en fait, le conseil départemental, depuis octobre 2015, accueille des volontaires en service civique. Donc du coup, vu le panel de compétences, on accueille dans des domaines complètement divers, le social, l'éducation, l'environnement, la culture évidemment. Donc on propose des missions de 8 mois environ dans nos services sociaux. On a ici par exemple Domiti qui est en mission aux archives départementales, qui fait des animations pour divers publics. Et puis on a Maëva qui est à la bibliothèque départementale d'Eure-et-Loir, donc qui travaille avec toutes les bibliothèques du département. Voilà, donc on va avoir beaucoup de jeunes qui vont se relayer, qui pourraient vous expliquer un peu leur mission. Est-ce que vous voulez
peut-être demander à Domiti qui était aux archives départementales, c'est ça Domiti ?
Alors c'est Domiti.
Domiti, aux archives départementales. Et Maëva qui est à la bibliothèque départementale de près. Alors, en quoi ça consiste le service civique ? Moi, je vous vois toutes souriantes, toutes les deux, je me dis que ça ne va pas être mal.
Oui, parce que c'est un engagement volontaire, donc c'est se mettre au service d'une entreprise ou d'une organisation. Donc moi, en l'occurrence, aux archives, je suis au contact du public scolaire. Donc on organise des ateliers qui permettent de mettre en avant un lieu comme les archives qui est qui apparaît toujours très fermé. Donc là, l'idée, c'est voilà, de renouer avec le passé à travers des documents et des activités manuelles.
Sans indiscrétion, vous avez quel âge ?
22 ans. Et en fait, j'ai fait un master en marketing avant et j'avais envie de me poser un peu dans mes études et de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Donc le service civique, ça apparaît comme une opportunité d'avoir le temps de réfléchir tout en étant utile, en fait.
C'est aussi Première expérience professionnelle.
Oui, clairement, oui, parce que c'est vrai que quand on est aussi jeune, on n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup de stages. Donc là, oui, c'est vraiment s'insérer dans la vie d'une entreprise et adopter le vrai rythme de la vie active.
Là, il vous reste combien de mois ?
J'ai fait 4 mois, il m'en reste 5.
Et vous avez une petite idée sur ce que vous allez faire après, non ?
Dans le domaine culturel, j'aimerais bien, entre communication et médiation.
Maëva, qui est à la bibliothèque départementale de près. Alors, vous aussi, vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 20 ans.
Vous avez 20 ans, et donc, d'où venez-vous ?
Alors, moi, de base, je viens de Picardie, déjà. Je suis arrivée ici il y a 5 ans pour faire les années lycée. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai eu mon bac, un bac pro-gestion administration. J'ai essayé de continuer les études supérieures. Ça n'a pas vraiment marché. Et là, je suis tombée sur le service civique. Ça m'a un peu réorientée, j'ai trouvé quelque chose dans la culture. Donc là, je suis à la bibliothèque départementale de Pré d'Eure-et-Loir. Et j'accompagne les bibliothèques du réseau pour, on va dire, les dynamiser. Et moi, je suis plus particulièrement dans le domaine numérique. Donc j'amène un peu la jeunesse et le numérique dans tout ça. Et je les aide à amener du public.
Ça vous a remis le pied à l'étrier, évidemment. Est-ce que ça vous a donné d'autres envies professionnelles ?
Ah, complètement. Alors moi, je ne me voyais pas du tout dans une bibliothèque à la base. J'étais plus partie dans le graphisme. Mais ça rejoint un peu parce que je suis très bande dessinée, manga. Et je me dis, travailler dans une librairie, là, j'ai un pied dedans déjà. Donc, ça m'a vraiment aidée, ouais.
Donc, la suite, c'est quoi ?
Peut-être faire des concours pour aller être libraire. Ça me plaît.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein.
Voilà, donc effectivement les jeunes c'est très bien, c'est vraiment un engagement volontaire, je crois qu'il faut insister vraiment parce qu'on défend des valeurs républicaines hein, pendant son service civique, donc c'est un dispositif qui est largement soutenu par l'État, hein, bien sûr, donc les jeunes n'ont pas de contrat de travail, c'est important, c'est un contrat d'engagement, donc il n'y a pas de lien de subordination et de lien hiérarchique avec le tuteur, parce qu'il y a un tutorat qui les accompagne aussi sur la mission, bien sûr, mais sur leur projet d'avenir. Voilà, donc c'est super important, parce que du coup, c'est de la collaboration, c'est un lien de collaboration. On essaye de leur donner beaucoup d'autonomie, peut-être sûrement plus de responsabilités que dans un premier poste, je pense. Parce que c'est vrai qu'on compte aussi sur eux pour nous apporter jeunesse, idées, un autre regard que les agents qui sont un peu le nez dans le guidon voilà, toute l'année. Donc ça apporte beaucoup de fraîcheur, c'est très bien.
On va parler argent, il y a un petit salaire à la clé.
Alors, ce sont des indemnités, effectivement. C'est un peu moins de 575 euros par mois, quelle que soit la durée hebdomadaire du contrat, puisque c'est de 24 heures à 35 heures, enfin ça peut aller jusqu'à 48 heures. Bon, évidemment, nous, on n'a pas de mission de 48 heures. Donc justement, il y a à peu près 460 euros des indemnités qui sont versées par l'État et le reste par la structure d'accueil.
Voilà. Comment peut-on postuler ?
Alors tout simplement sur le site officiel, servicecivique.gouv.fr, toutes les annonces sont obligatoirement postées sur ce site. Donc les jeunes, il faut qu'ils se connectent sur ce site internet et qu'ils aillent regarder dans les domaines qui les intéressent et les départements, les missions qu'ils pourraient effectuer.
Beaucoup d'appelés, peu d'élus ? Il y a un tri forcément, non ?
Suivant les missions, oui, des fois on a jusqu'à une quinzaine de candidatures pour la même mission.
Et les sélections se font sur quels critères ?
Uniquement sur la motivation. Ne peuvent pas être pris en compte, on ne peut pas exiger ni de diplôme, ni d'expérience, ni de compétences particulières. C'est plutôt la mission qui s'adapte aux envies et aux compétences du jeune. Donc c'est vraiment très souple comme dispositif.
Merci beaucoup.
De rien.
Merci. Merci à vous et bon courage. Maintenant, après le service civique, on va parler métier et avec des spécialistes du métier. Les hommes de l'art, les compagnons du devoir et du Tour de France, à mes côtés.
Pascal Girondeau, compagnon métallier ferronnier.
Alors, les compagnons, on peut y rester, on peut aussi évidemment devenir compagnon et puis après voler de ses propres ailes, intégrer une entreprise. Vous avez choisi, vous, de rester aux compagnons du devoir ?
Alors en fait, moi j'ai fait le Tour de France à mon époque, d'accord ? Ensuite, j'ai créé mon entreprise pendant 25 ans. C'est mon fils qui a repris l'entreprise et moi j'ai souhaité travailler auprès de la jeunesse et de la formation.
Parlez-nous des compagnons du devoir et du Tour de France. Il y a toujours une aura un peu de mystère et de prestige aussi hein, autour des compagnons du devoir. On peut dire que le maître mot c'est l'excellence.
Oui, Alors, le mystère, ça, je suis désolé, mais ça, c'est les journalistes qui le cultivent. Ce n'est pas les Compagnons du Devoir. On est l'organisme de formation qui passe le plus souvent sur les grandes chaînes de télé. On organise 3 journées portes ouvertes chaque année. Et nos directeurs de chaque maison font à peu près 60 de forums dans les collèges et lycées chaque année.
Alors, quand je parlais d'excellence, c'est que, évidemment, quand on intègre les Compagnons du Devoir, c'est vraiment du plein temps. Comment ça se passe, une formation ?
Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas dans un process qui serait où on a 200 places de disponibles, on rencontre 900 jeunes et on prend les meilleurs. On n'est pas du tout sur cette démarche-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le jeune, il ait le désir de se former, d'accord, et qu'il n'ait pas choisi un métier par défaut. Voilà, ça, c'est la première chose. Donc, il commence par l'apprentissage en 2 ans. Et au terme de son apprentissage, il va ou il ne va pas souhaiter faire le Tour de France avec le compagnonnage pour continuer à se former.
Le Tour de France, s'il choisit de faire le Tour de France, comment ça se passe exactement et pourquoi un Tour de France ?
Alors, c'est lui effectivement qui choisit s'il veut faire ou pas le Tour de France, s'il veut continuer à se former ou pas. Un Tour de France, ça dure à peu près 5 à 6 ans. Donc ça veut dire que la fin d'un Tour de France, ça correspond à peu près pour un jeune à 24 ans. D'accord ? Il change de ville chaque année. Ce sont les compagnons qui lui trouvent une entreprise à chaque fois qu'il arrive dans une nouvelle ville. L'hébergement, la restauration est organisée, y compris sa formation.
Quels sont les métiers auxquels on peut s'initier chez vous ?
Alors, l'apprentissage se fait dans 29 métiers qui sont classés par filière. Il y a les métiers du bâtiment, les métiers de l'industrie, les métiers de bouche, les métiers des matériaux souples et les métiers de la finition. Alors, il y en a 6, excusez-moi, et les métiers du vivant.
C'est un enseignement très particulier parce qu'évidemment on travaille en entreprise et puis après le soir il faut travailler. Quelle est la nature de cet enseignement ?
Alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que dans le compagnonnage la notion de métier, d'appartenance à un métier est quelque chose de très important. D'accord ? À tel point qu'on fait même passer la culture générale à travers le métier. Je vais vous donner un exemple si vous me permettez. Dernièrement cette semaine il y avait un cours en collaboration entre le professeur d'histoire et le maître de stage métier sur le mur de l'Atlantique. Donc à la fois la construction béton armé, etc. et à la fois la partie historique, à quoi ça servait, etc., etc. Donc là, je peux vous assurer que ce cours-là, les apprentis s'en souviendront toute leur vie.
Mais il y a aussi un savoir objectif qui n'est peut-être pas mathématique, mais en tout cas, il y a une tradition quand même chez les compagnons.
Alors, il y a 2 piliers fondamentaux dans le compagnonnage. D'abord, c'est la mobilité et la transmission. Donc, la transmission, ce n'est pas un vain mot, c'est quelque chose de très important. La transmission, on éduque nos jeunes, dès le plus jeune âge, déjà à transmettre ce qu'ils savent. D'accord ? Donc, l'appartenance à un métier, ce désir de transmettre, forcément, eh bien, ça leur permet de franchir des étapes peut-être plus vite ou différemment que dans d'autres concepts.
Est-ce que c'est dur ? C'est très exigeant quand même ?
Quand on aime, c'est pas exigeant. Vous demandez à un sportif si c'est exigeant, il va vous dire non, c'est mon plaisir, c'est ma passion, donc il n'y a pas de problème.
Quand on intègre les compagnons, généralement, quand on en sort, on a un travail. Hein.
Avant d'en sortir.
Ça veut dire que vous êtes très demandé par les entreprises.
Oui, forcément, c'est des garçons qui ont roulé leur bosse, si je puis dire, qui ont acquis une multitude de compétences parce qu'ils ont été dans différentes entreprises avec des techniques de travail différentes, etc. Donc, ils ont accumulé tout ce savoir. Et forcément, et puis il y a aussi quelque chose qui est très important dans le compagnonnage, au-delà de la connaissance technique, c'est, je pense, le savoir-être. C'est quelque chose qui est cultivé avec la même intensité que le savoir technique.
Avant de sortir des compagnons, on doit réaliser un chef-d'œuvre. C'est quoi ?
Alors, le mot chef-d'œuvre, c'était le mot qui était utilisé dans l'histoire du compagnonnage. Alors, je ne sais pas si les compagnons sont devenus plus humbles, j'en sais rien si c'est ça. Mais en tout cas, pour vos téléspectateurs, ça s'apparente à un travail de fin d'études. D'accord ? Voilà, comme tout étudiant qui fait de la formation supérieure, à un moment donné, il a un rendu, il a un travail de fin d'études. Eh bien, pour nous, ça correspond à ça. D'accord ? Et ce travail, il doit le faire en dehors de ses heures de travail, en entreprise, bien sûr. Donc, il le fait le soir ou le week-end, comme il veut. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les attributs du compagnon ? Il y a l'écharpe, il y a la canne, il y a la petite boucle d'oreille aussi. Ça existe toujours ? Quel est le sens de cela, en fait ?
Alors là, on peut en parler longtemps. Hein. Donc l'écharpe, elle symbolise, si vous voulez, les valeurs que cultive le compagnonnage. La canne, c'est le côté discipline du compagnon, sans compter que ça l'aidait aussi à marcher à l'époque où il se déplaçait, il faisait le Tour de France à pied, d'accord ? Voilà quelques petits exemples. Et puis la boucle d'oreille, alors on appelle ça des joints. Donc là, c'est vraiment le symbole de la fidélité à l'égard du compagnonnage.
Voilà. Ce sont de très belles valeurs, quoi, finalement, qui dépassent un peu le caractère de métier, hein, la fidélité, l'excellence.
Alors, c'est vrai que quelquefois, on m'a posé une question dernièrement. On m'a demandé d'intervenir sur la question suivante. Comment le compagnonnage a fait pour traverser tous ces siècles et encore en vie aujourd'hui? Donc c'est une question qui m'a bousculé parce que je ne m'y attendais pas. Et à y réfléchir, je me suis dit, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de structures, d'institutions qui ont traversé ces siècles, à part la religion et le compagnonnage. Alors peut-être qu'elles prônent toutes les deux les mêmes valeurs.
Finalement, ce que vous fabriquez, c'est des objets, mais ce sont aussi des hommes, non?
Bien sûr, c'est avant tout des hommes.
Si je veux avoir de plus amples renseignements, qu'est-ce que je dois faire ici? Il y a des maisons des compagnons dans la région, je sais que...
Oui, alors d'abord, il y a la maison des compagnons la plus proche par rapport à Chartres, c'est Tours et Rouen, d'accord? Les jeunes peuvent aller sur le site internet Compagnons du Devoir. Là, ils vont trouver une multitude de choses, d'accord? Ou alors, il faut qu'ils viennent vite me voir.
Merci beaucoup, on va vous laisser avec les jeunes. Merci.
Bonne journée, au revoir.
Eh bien, nous voici un stand, mais vraiment, qui sent bon, qui est magnifique à regarder, délicieux à respirer, et je suis sûr qu'au niveau de la dégustation, c'est pas mal non plus. Gérard Martin, vous allez nous présenter le lycée La Saussaie, que les auditeurs de Radio Rancière connaissent bien, puisqu'il y a une émission qui est réalisée tous les mois par des élèves du lycée La Saussaie. Et moi, je me rends compte, en jetant un coup d'œil au panneau, qu'il y a de nombreuses formations qui sont proposées au sein du lycée.
Tout à fait, nous avons beaucoup de formations. Donc les stands qu'on présente aujourd'hui, c'est pour justement illustrer différents types de formations qu'on peut faire. Le stand principal est dédié à l'agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique. On explique aux jeunes comment on transforme la matière agricole, la production agricole, en produits qu'on retrouvera plutôt au supermarché ou dans les instituts de beauté ou dans les pharmacies. Après, on a un autre pôle qui est le pôle agricole, donc comment on produit les matières agricoles. Et un dernier, l'aménagement paysager. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'illustrer ce qu'on sait faire à travers une petite animation sur le thème du chocolat qui va permettre justement de bien illustrer toutes ces étapes de la transformation.
Je vous disais que ça sentait bon. Là, il y a une tablette de chocolat énorme qui fait au moins 5 cm.
Voilà. 2,5 kg exactement, qui est en fait une base pour nous pour travailler. On travaille le chocolat sous cette forme pour après le réduire en petits morceaux et faire des gâteaux au chocolat par exemple. Voilà.
Alors, j'ai remarqué que vous étiez très en phase avec le bassin d'emploi local, puisque vous travaillez autour de la cosmétique et de l'agriculture.
Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir des formations qui vont vraiment proposer un avenir professionnel aux jeunes qui viennent chez nous. Donc effectivement, il y a des gros besoins, notamment dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire. Et bien effectivement, les jeunes qui sortent de nos formations ont un parcours professionnel qui s'ouvre devant eux. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous détailler quelles sont les filières, les diplômes auxquels vous préparez?
Voilà, donc en fait, les diplômes, alors, ça dépend des formations, du domaine, hein, mais on va dire qu'on part au lycée sur la seconde professionnelle, après bac pro en 2 ans, et après un bac plus 2, ce qu'on appelle un BTS, en sciences et technologies des aliments. Ça, c'est pour la partie alimentaire. Après, nous avons aussi, pour la partie agricole, aussi une seconde professionnelle, après un bac pro aussi de production des productions agricoles. Et enfin, on a la même chose, mais pour l'aménagement paysager, avec un CAP qui permet d'avoir des employés plutôt polyvalents. Voilà.
Donc, si on fait un BTS chez vous, on ressort avec l'assurance, par exemple, d'avoir un travail, ou enfin l'assurance, en tout cas, de bonne chance.
Voilà, tout à fait. Alors après, il y a deux choix, hein, deux cas de figure. Après un bac plus 2, soit on arrête, et bien sûr, effectivement, l'industrie aujourd'hui offre beaucoup d'emplois, sont en recherche de personnes qualifiées, soit on peut continuer aussi les études vers, par exemple, une licence professionnelle.
Le lycée La Saussaie, c'est énorme. Quand on y est allé une fois, c'est très impressionnant. Vous recevez combien d'élèves?
Alors, on reçoit en visite à peu près 500 élèves à l'année. Par contre, après, c'est une petite structure. Ça veut dire que nous n'avons pas beaucoup d'élèves dans les classes. Et c'est une force, finalement, parce que ça va vous permettre d'être très proche des apprenants.
C'est-à-dire qu'il y a une sélection?
Il y a toujours des sélections. Après, aujourd'hui, nous avons des formations qui ne sont pas toujours reconnues, connues. Et donc, effectivement, on a des jeunes qui sont des fois pas toujours... ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Donc, on est là aussi pour leur expliquer ça nous permet d'avoir des petites classes. Quoi, là.
Et vous avez un très beau campus aussi, vous avez un beau stade, ah, vous oui. êtes très bien équipé. Hein.
Ah oui, tout à fait. Effectivement, on va dire que l'infrastructure de notre établissement est assez importante et diversifiée, donc c'est très intéressant. Ouais. Voilà.
Alors je crois que vous allez bientôt accueillir, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même intéressant, et preuve de votre ouverture d'esprit, un mini-festival du cinéma, c'est ça bientôt, non ?
Oui, tout à fait. Mais en fait, donc c'est un établissement qui est un petit peu en plein milieu des champs. Hein. Donc à l'intérieur, il y a un gros dynamisme permettant d'essayer d'illustrer ce qu'on peut faire en communication, etc. Mais le prof qui fait ça pourrait peut-être plus en parler que moi. Hein.
Ah ben nous avons le professeur qui organise ce petit festival de cinéma, c'est ça, le lycée
Tout à fait.
Alors vous allez vous présenter.
Très bien. Alors, attendez, Gérard, je te confie, c'est des demoiselles qui sont en première S.
Les affaires marchent bien alors.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, oui, donc je m'appelle Julien Clément et je suis enseignant en éducation socioculturelle, voilà, qui est une discipline spécifique à l'enseignement agricole. Et il s'avère que donc au niveau de la région centre, tous les lycées agricoles de la région centre se regroupent, donc on est 10 lycées, pour organiser des manifestations annuelles et qui sont d'envergure. Donc cette année, on a travaillé sur l'organisation d'un festival de cinéma qui aura lieu le 30 mars, donc au lycée de la Saussée, et qui va regrouper plus de 300 élèves, plus de 10 classes. Et chaque classe a travaillé sur un des chefs-d'œuvre du cinéma muet, a pris une scène emblématique de chacun des films et l'a tournée avec les moyens du bord en bricolant tout. Donc, pour vous donner des exemples de grands films, ils ont travaillé sur Le Cuirassé Potemkin, sur Nosferatu, sur les films des Frères Lumière, sur Le Voyage dans la Lune, sur donc toute une... Voilà. Et ce jour-là, chaque classe présente son film dans notre amphithéâtre. Et donc le meilleur film est récompensé symboliquement.
Voilà. Donc vous-même, vous avez réalisé un film ici, à la Saussée, alors ?
Alors, à la Saussée, on a travaillé sur des scènes du Cuirassé Potemkin. Et notamment sur des scènes de... donc chez Eisenstein, mes élèves ont découvert la puissance du montage chez Eisenstein. Voilà. Et on travaille aussi sur des expositions photos, sur des photomontages. Donc il y a cinéma, plus photographie... Plus, j'ai un collègue dans la région donc, qui a travaillé sur des sérigraphies autour du cinéma muet. Chaque classe a préparé aussi une animation en relation avec le film. Donc le matin, il y a présentation du festival et des films. Et l'après-midi, les élèves découvrent les animations de chaque classe et de chaque film. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut le faire ça grâce à des dispositifs qui s'appellent lycéens citoyens, lycéens aussi, aux arts lycéens. Dispositif aux arts lycéens, financé par le conseil régional, qui permet de faire appel à des artistes et à des cinéastes. Donc, plusieurs cinéastes ont travaillé avec les élèves. Voilà. Et c'est financé aussi par la DRAC. Donc, le fait d'être plusieurs lycées nous permet de mener des projets d'envergure.
Rappelez-nous la date.
Le 30 mars 2017.
Est-ce que c'est ouvert aux gens ?
Et malheureusement, la taille de l'amphi nous limite dans le nombre de spectateurs. Mais par contre, les films seront mis sur le site de l'agence qui s'appelle Cyclic, qui est aussi un de nos partenaires régionaux. Et donc, le public pourra consulter les films sur le site de Cyclic.
Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour ce festival. Merci beaucoup.
Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et voilà, c'est la fin de cette édition d'Écho de ma commune et de mon canton, dont le thème était le forum de l'orientation organisé à Chartres Expo les vendredis 27 et samedi 28 janvier. 5000 lycéens et collégiens ont participé à ce forum en espérant évidemment que les contacts avec les établissements scolaires, universitaires ou les filières de formation ont été fructueux pour eux. Voilà, je vous souhaite à tous, à toutes une excellente fin de journée à l'écoute de nos programmes et on se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle édition d'Écho de ma commune et de mon canton.
I took him to my house, set him down at my table, gave him all food I was able. He ain't my chicken and he drank my tea. Now he's trying to take my gal from me. Do you call that a buddy? Could that be your buddy, huh? I'm gonna shoot my buddy. Well, cousin, he's such a dirty guy.
Shoot my buddy! such a dirty